moment de partage du pain et du vin, voilà le moment où nous allons écouter la parole de Dieu, le message, la prédication. Et avant de ça, je voudrais vous dire que je suis vraiment aussi content de vous retrouver. C'est vrai que les différentes personnes qui ont pris la parole l'ont dit, mais c'est vrai que ça m'a fait plaisir ce matin de retrouver le chemin de l'église après plusieurs dimanches d'absence. Voilà, ça me fait plaisir. Et puis en plus, moi je suis bien placé là parce que je vous vois tous. Ça me fait plaisir de vous voir tous, chacun, voilà. Et puis j'ai le texte que j'ai là que je vais vous présenter ce matin. Ça fait longtemps que je l'ai sur le cœur et il m'a accompagné tout cet été. Et je suis vrai que je suis admiratif des prédicateurs qui viennent à ce micro et qui disent voilà, j'ai préparé un message et puis hier le Seigneur m'a montré que m'a donné un autre thème. Voilà, je ne sais pas comment ils font. Je rêverais de pouvoir vous dire ben voilà, j'avais pensé à un thème et puis ce matin je me suis dit tiens parlons d'autre chose. Non. Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur de pouvoir m'indiquer, me montrer, me mettre à cœur un texte longtemps avant. Voilà, donc ce texte m'a accompagné tout cet été. Et le texte que j'ai choisi ce matin est la parabole du semeur. Voilà, dans Matthieu 13, que nous allons lire dans cette version-là. Et j'avais envie de m'attaquer ce matin à un grand classique. Parce que je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, parfois il y a des textes qu'on connaît tellement finalement qu'on les survole, pensant que l'on en a fait le tour. Et je crois vraiment que c'est une erreur, parce que la parole de Dieu est tellement profonde qu'on peut lire tellement de fois le même texte, écouter plusieurs prédications sur ce sujet et découvrir de nouvelles choses. Voilà, donc c'est le défi que je me suis lancé ce matin. Donc, je vous invite à lire Matthieu 13, la parabole du semeur, et ensuite l'explication par Jésus lui-même. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Il se rassembla auprès de lui une si grande foule qu'il monta dans un bateau et s'y assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla longuement en parabole. Il disait, « Le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains tombèrent le long du chemin. Des oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt, parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et se desséchèrent, faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines. Les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils finirent par donner du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. » Et un petit peu plus loin, l'explication par Jésus lui-même. Vous donc, entendez la parole du semeur. Lorsque quelqu'un entend la parole du règne et ne la comprend pas, le mauvais vient s'emparer de ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a été ensemencé le long du chemin. Celui qui a été ensemencé dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il ne tient qu'un temps. Sitôt que survient la détresse ou la persécution à cause de la parole, c'est pour lui une cause de chute. Celui qui a été ensemencé parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais les inquiétudes du monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent la parole et elle devient stérile. Celui qui a été ensemencé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et produit l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Voilà, et avant de commencer, eh bien, je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole si riche, si profonde. Et c'est vrai, Seigneur, que nous pouvons lire plusieurs fois le même texte et découvrir de nouvelles choses de toi. Parce que la relation que tu nous proposes est tellement riche, tellement profonde. Et je prie, Seigneur, que ce que tu as semé dans mon cœur pendant la préparation, eh bien, que je sache le retransmettre et que cette parole puisse germer dans les cœurs de chacun. Amen. J'aime beaucoup la simplicité du premier verset. Oui, alors, je n'ai pas de diaporama, j'ai quelques diapos à la fin en synthèse, donc si ça ne défile pas, c'est normal. Voilà. Je reviendrai tout à l'heure en conclusion. Et j'aime beaucoup la simplicité du premier verset. Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Je trouve que ce premier verset est vraiment très beau. Souvent, on va vite tout de suite à la parabole et ces petits versets, on passe par-dessus. Parce qu'au fond, il n'apporte pas grand-chose au message de Jésus. Il sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Mais je trouve qu'il est beau parce que ce type de verset eh bien, nous font entrer dans le quotidien de Jésus. Je trouve que ce type de passage ressemble comme à une respiration dans la lecture et l'étude de la parole. Et ce verset, je trouve qu'il est comme une invitation à nous asseoir à côté de Jésus et à regarder la mer avec lui et à l'écouter. Je parle de ce verset comme d'une respiration, car dans la Bible, vous savez bien qu'il y a des passages qui sont plus ou moins complexes. Et ils sont riches, ils sont nourrissants, mais ils méritent que l'on s'y attarde. Là, avec ce type de verset, Jésus sortit de la maison et s'assoit au bord de la mer. Rien de tout ça, c'est vraiment simple. Et le seul message, au fond, que l'on a à entendre, c'est cette invitation à nous asseoir à côté de Jésus. Cette invitation personnelle à nous asseoir encore une fois à côté de lui, à regarder dans la même direction et à l'écouter. D'ailleurs, le texte nous dit que nous ne sommes pas seuls, hein, puisque de grandes foules sont venues également pour l'écouter. Et c'est ce que nous dit le verset 2 du chapitre 13. « Il se rassembla auprès de lui une si grande foule qu'il monta dans un bateau et s'y assit. » Je trouve que ce verset 2, là, nous montre la puissance de Jésus, la capacité qu'il avait à attirer les foules. Aujourd'hui, on parlerait avec un grand mot qui s'appelle le charisme. Et j'imagine la scène, Jésus assis au bord de la mer, au bord de l'eau, la foule l'entoure, et là ici on ne sait pas trop pourquoi, si ce n'est quand même que c'est Jésus bien sûr, et qu'il a déjà enseigné plusieurs fois la foule. Donc la foule l'entoure. Et malgré la taille de la foule, j'imagine que ça devait créer du mouvement, devait y avoir du bruit, et bien je trouve qu'il se dégage une grande paix, une grande sérénité dans ce passage. Alors des photos, des films nous montrent parfois de grands orateurs s'adressant à une foule. Alors je ne sais pas moi, mais dans ce type d'image, eh bien, je pense à des gens comme De Gaulle, Luther King, Obama, dans des registres différents. Et on voit ces tribuns face à la foule et parler, s'adressant à la foule. Jésus, lui, n'a pas besoin de cela. Alors la foule était sans doute moins nombreuse ici qu'au moment de l'investiture d'Obama, mais quand même, le texte nous dit de grandes foules, de si grandes foules. Alors pour être bien entendu de tout le monde, eh bien, Jésus monte dans le bateau. Et lui, eh bien, au lieu d'être debout, il s'assoit. Et je trouve qu'il y a là aussi une grande simplicité dans le comportement et l'attitude de Jésus. Il y a un calme qui se dégage de ce passage. Et encore une fois, je trouve qu'il est étonnant parce que la foule est nombreuse. Et j'imagine la foule toute concentrée sur ce que disait Jésus. Là aussi, ça en dit beaucoup sur l'autorité de Jésus. Il n'avait pas besoin d'artifice de communication, il n'a pas besoin de faire une petite blague au début pour attirer l'attention ou pour susciter l'intérêt. Non, Jésus ne fait rien de tout ça. Il monte dans un bateau, il s'assoit. Il parle quand même à la foule de manière pédagogique, parce que là, il va leur raconter une histoire qui leur parle d'eux. Et cette parabole, eh bien, la parabole du semeur, et ensuite son explication, sont pour nous au fond comme des modèles, des modèles qui nous aide à comprendre les paraboles de Jésus. Parce que là, en plus de la parabole, eh bien, on a l'explication de texte après. Et en plus de tout ça, le texte nous dit « il leur parle longuement ». Et pourtant, la foule a l'air attentive. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous parler longuement, mais je ne me prends pas non plus pour Jésus. Donc venons-en maintenant à la parabole que nous connaissons bien. Et cette parabole, elle est vraiment, vraiment riche d'enseignements. Et je crois qu'on a deux manières de s'identifier à des éléments de cette parabole. Je crois que nous pouvons être le semeur, mais nous pouvons aussi être la terre. Si on fait un parallèle, si on laisse parler en nous les images que nous donne le texte, on peut être le semeur ou on peut être la terre. Nous semons la parole de Dieu, mais aussi nous pouvons l'accueillir. J'ai été terre, moi, lorsque j'ai préparé la prédication, à essayer d'écouter le Seigneur sur ce texte, et là, eh bien, je suis semeur en la partageant avec vous. Et je vais redevenir terre aussi, eh bien, à nouveau, quand je vais lire la parole ou quand je vais m'asseoir à côté de Jésus au bord de la mer, pour reprendre cette image. Et je crois que c'est une sorte de cycle. Et je passe de l'un à l'autre. Je suis terre et puis ensuite je suis semeur. Je reçois la parole et ensuite je la donne, je la transmets. Et je trouve que terre ou semeur, eh bien, ce sont deux belles images riches qui nous parlent de la relation que l'on peut avoir avec le Seigneur. Alors pour ce matin, j'ai fait un choix. J'ai fait le choix de m'intéresser qu'au semeur. Voilà, à nous, en tant que semeur. Je nous invite ce matin donc à réfléchir sur le comportement, sur le semeur, ce qu'ils ont à nous dire en ce dimanche justement de rentrée. On nous l'a rappelé plusieurs fois, des fois qu'on l'ait oublié, voilà, que les vacances étaient terminées. Donc si on retourne au texte et si on le regarde d'un peu plus près, on remarque que les graines tombent dans de la terre qui semble être de plus en plus favorable à la germination et à la croissance de l'épi. Alors le terme épi n'est pas utilisé ici, mais je trouve que c'est sans doute ce dont voulait parler Jésus. Tout d'abord, les graines tombent sur le chemin, où elles n'ont même pas le temps de germer. Puis dans les endroits pierreux, où elles poussent un petit peu, mais voilà, elles se dessèchent tout aussi rapidement. Ensuite, elles sont semées parmi les ronces, elles poussent, mais les ronces poussent aussi, et elles sont étouffées. Et ensuite vient la bonne terre qui permet la germination du grain de blé et ensuite de porter du fruit. Alors je ne sais pas si ça exprime une chronologie, hein, mais je trouve que ça peut donner une vision pessimiste, voire décourageante pour le semeur. Finalement, les graines n'ont que peu de chances d'atteindre la bonne terre. Il y a un certain nombre d'obstacles avant. Alors on peut, je crois, légitimement se poser la question, à quoi bon semer ? Et qu'est-ce que c'est que ce semeur, au fond, qui sème n'importe où ? N'importe comment ? Il voit, même là où ça ne va pas pousser, il doit bien le voir qu'il y a des cailloux, qu'il y a des ronces, et il se doute bien, sans doute, que ce n'est pas le meilleur endroit pour semer. Alors pourquoi semer à cet endroit ? Je pense que si vous étiez le propriétaire du champ et que le semeur était votre employé, eh bien vous le renverriez tout de suite pour gâcher justement cette semence. Et c'est vrai que si l'on fait le parallèle entre le semeur, cette parabole, et puis l'évangélisation, toutes les occasions que nous avons eues de parler de notre foi, d'annoncer l'évangile, de parler de Dieu, eh bien de tous les contacts que nous avons pu avoir, au fond, combien germent, croissent et portent du fruit. Et si on parle en termes d'entreprise, au fond, le retour sur investissement est assez faible. Et si vous étiez à la place du semeur, est-ce que vous gâcheriez du temps, de l'énergie, des graines, du grain, pour un si faible retour sur investissement ? Pour ma part, j'en suis pas sûr. Mais le texte nous donne l'exemple de ce qu'est, au fond, un vrai semeur. Parce que le premier semeur, le semeur exemplaire, et bien sûr, c'est bien sûr Jésus, le semeur parfait de la parabole. Et le Seigneur sème même là où il y a peu de chances que ça pousse, où le retour sur investissement est faible. Je trouve que c'est un bel enseignement de la générosité de Jésus et de la générosité du Père aussi, de Dieu. Le Seigneur sème et sème en abondance. La parole n'est pas réservée à une catégorie de personnes, à une élite quelconque, les personnes qui seraient favorables au fond à la parole. Même les terres difficiles, si je continue sur cet exemple, la reçoivent. Et c'est ensuite à l'autre, à nous, de l'accueillir ou pas. Mais qui que l'on soit, quoi que l'on fasse, eh bien le Seigneur nous donne sa parole, nous la met à notre disposition. Et le comportement du semeur nous amène aussi, il nous apprend à ne pas juger nous-mêmes de la qualité du terrain. Le semeur sème, quels que soient les aspects de la terre. Et parfois on pourrait être amené à penser que ce n'est pas la peine d'annoncer l'évangile à telle ou telle personne parce qu'il ne semble pas prêt ou je pense qu'il y est opposé. Et je reconnais, moi, d'être un peu comme ça. Et de regarder peut-être de trop près la qualité du terrain. Est-ce que ça vaut le coup ou pas que je lui annonce l'évangile ? Oh non, lui, non. Oh non, lui, il n'est pas assez, ou il est trop, non. Non, je ne vais pas le faire avec lui. J'ai passé 8 ans dans un même service, dans une entreprise, et il y a des personnes à qui, j'ai annoncé assez facilement l'évangile. Et d'autres, pas du tout. Mais sur quels critères, sur quel choix ? Je ne sais pas trop, au fond. Parce que je jugeais que le terrain n'était pas forcément favorable. Alors il ne s'agit pas, bien sûr, d'annoncer l'évangile sans discernement ou sans intelligence et de partager sa foi à des moments où, justement, ce n'est pas le moment. Mais je reconnais, en tout cas pour moi, être trop souvent regardant sur la qualité du terrain, sur la qualité de la terre qui est en face de moi avant de semer la parole de Dieu. Et je pense profondément que c'est une erreur. Alors, et en plus, il y a le verset 8 ici qui nous encourage. Ils finirent par donner du fruit. Et au fond, ce fruit, eh bien, n'est pas de la responsabilité du semeur. Il ne peut que se réjouir en le regardant apparaître. Je crois que ça libère de la pression du résultat, savoir s'il y a des gens qui avancent ou pas avec le Seigneur. Ce n'est pas la responsabilité du semeur. Lorsque le semeur a semé, les graines ne lui appartiennent plus. Et puis ce n'est pas parce que je ne vois pas le fruit que le fruit n'existera pas ou n'existe pas. Notre responsabilité, la responsabilité du semeur, est de semer, comme son nom l'indique, et de semer en abondance, comme le fait ici le semeur de la parabole, dont Christ est le semeur parfait. C'est ça sa responsabilité, mais pas d'avoir du résultat. Toujours à propos du semeur, je trouve que semer comporte toujours un risque. Toujours un risque, parce qu'au fond, lorsque je sème, je ne suis pas sûr à 100% de ce que je vais récolter. Bon, si je sème des carottes, il y a peu de chances que je recueille autre chose. Mais au fond, sur la quantité, sur la qualité, est-ce que ça va bien pousser ? J'en sais rien. Il y a toujours ce risque de la semence. Et nous savons bien qu'en fonction des années, les mêmes espèces ne produisent pas les mêmes quantités. Vous vous souvenez des agriculteurs avant l'été qui voulaient un impôt sécheresse Après, c'était plutôt un impôt inondation. Hein. Mais vous voyez, on sait bien que en fonction de la météo, eh bien, les rendements sont bien sûr différents. Alors, si je parle de risque quand je sème, parce que quand j'ai les grains de blé dans la main, je sais au moins ce que je possède. Je possède au moins ça. Hein. Lorsque je sème, je perds quelque chose. Une fois que j'ai semé, cela ne m'appartient plus. Je le donne à la terre. Et c'est vrai que lorsque je sème la parole, lorsque j'évangélise, que j'annonce la parole de Dieu, eh bien, lorsque je la partage, je donne un peu de moi. Je me dévoile quelque part à l'autre. Et je ne contrôle pas sa réaction. Comme le semeur ne contrôle pas, au fond, la germination de la plante. Une fois que le grain est semé, il ne contrôle plus la suite. Lorsque je partage ma foi, je prends le risque que cela ne germe pas. Je prends aussi le risque d'être rejeté. Ou plus exactement, ce que je dis soit rejeté. Quand je sème, je prends le risque effectivement d'être rejeté. Et je crois qu'il y a une distinction à faire entre le fait d'être rejeté, de se sentir rejeté, et de ce que je dis soit rejeté. C'est subtil, mais ce n'est pas exactement la même chose. En tout cas, il y a toujours cette prise de risque quand je sème la parole. Et là aussi, j'ai cet encouragement du verset 8, « Ils finirent par donner du fruit ». Voilà, ça aussi c'est un bel encouragement à prendre ce risque justement. Et cette prise de risque passe par la confiance. Ici, le semeur fait confiance à la terre pour nourrir le grain, pour qu'il germe et porte du fruit. Et c'est vrai que le risque ne paye pas toujours, au fond, parce que tous les grains, eh bien, tous les grains ne germent pas. Et on le voit bien dans cette parabole. Les terrains sont différents et les rendements sont différents. Et au fond, même lorsque la terre est favorable, eh bien, l'un porte 60, l'autre 100, l'autre 30. Les rendements sont différents. Les retours sur investissement, pour reprendre ce terme, sont différents. Cette situation me fait un peu penser à nos enfants, et je trouve que ça tombe bien là qu'on ait vu les moniteurs, et après que Philippe nous ait rappelé qu'il y a 50 enfants. Avec les enfants, nous sommes les semeurs, et eux sont la terre. Et nous avons aussi à leur faire confiance que ce que nous allons semer dans leur cœur, eh bien, ça va leur appartenir, ça va être à eux après de le faire germer. Parce que nous ne pouvons pas tout contrôler. On ne peut pas convertir nos enfants en tapant sur leur tête à coups de Bible, même si parfois on a un peu envie. Enfin, bref, on en parlera une autre fois. Mais vous voyez, la parole que je sème dans le cœur de mes enfants, de nos enfants, eh bien après, ça ne leur appartient plus. Nous avons à semer, c'est notre responsabilité. Et là, je ne parle pas qu'aux parents, mais nous sommes tous les uns et les autres responsables, co-responsables de ces 50 enfants de l'école du dimanche, parce qu'ils vont nous voir, ils vont nous entendre. Bien sûr, les parents sont en première ligne, mais pas que. Nous avons aussi, avec nos enfants, à mettre un tuteur pour qu'ils poussent dans la meilleure direction possible. Mais on ne fait pas pousser du blé en tirant dessus. Je répète cette pensée profonde, parce qu'on ne fait pas pousser du blé en tirant dessus. C'est en l'arrosant et en annonçant et en semant. C'est vrai pour nos enfants, c'est aussi vrai pour les personnes à qui nous partageons notre foi. Dès que nous avons donné la graine, semé le grain, elle ne nous appartient plus. Et à nous de leur donner la meilleure graine possible. Et c'est vrai qu'en tant que semeur, nous avons une autre responsabilité que celle de semer. Nous avons à veiller à la qualité des graines, du grain que nous semons. Alors bien sûr, dans la parabole, ici, la semence, c'est la parole de Dieu. Et donc la parole de Dieu, elle est bien sûr intrinsèquement de qualité. Mais nous ne semons pas simplement et uniquement en disant la parole. Nous la semons aussi en la vivant. Quand les autres nous regardent vivre et faire, et particulièrement nos enfants qui partagent notre quotidien. Ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que les autres voient de nous, est-il à la gloire de Dieu, justement? Mon comportement, mes paroles, donnent-ils envie d'écouter le message de l'Évangile, de le suivre? Ayons bien en tête que semer la parole de Dieu ne passe pas uniquement par les mots, mais aussi par nos actes, notre comportement, notre regard. Bref, en vivant, en incarnant, vivant la parole. Alors j'ai envie de nous encourager ce matin aussi à veiller à la qualité de la graine que nous semons. Et tout cela va dépendre, bien sûr, enfin la qualité de la graine va dépendre de la qualité de la relation que j'ai avec le Seigneur. Tout à l'heure, je disais que le début du chapitre, enfin le premier verset du chapitre, était une invitation à nous asseoir à côté de Jésus et à l'écouter. Le premier verset nous dit « Jésus sortit, il s'assit au bord de la mer. » Et de regarder dans la même direction que Jésus et de l'écouter. Alors, en cette période de rentrée, où parfois nous disons cette année, allez, en début d'année, on dit, allez, cette année, je m'y mets. que ce soit au sport, Sébastien a parlé de kilos tout à l'heure en introduction, ou les étudiants, les lycéens qui se disent « Tiens, l'année dernière, j'ai travaillé une semaine, cette année, je travaillerai toute l'année. » Je sens que ça touche, les bonnes résolutions de rentrée. Mais personne ici, vous savez, toute ressemblance avec des personnages ayant... il serait vraiment fortuite. Bref, en cette période de bonnes résolutions, décidons de prendre du temps avec Jésus. Décidons de prendre du temps pour nous asseoir à côté de lui, ou de nous asseoir plus longtemps, pour l'écouter, lui parler par la prière, ou de méditer la parole. Et c'est d'ailleurs le moyen ou un moyen dont dispose le semeur pour influencer la qualité de la terre qui reçoit la graine. Dans la parabole, le texte que l'on a lu, eh bien, le semeur n'a pas d'action sur la terre. Et j'ai envie de dire, dans la vraie vie, si je poursuis l'image, le semeur que nous sommes peut contribuer à la qualité de la terre qui accueille la parole. Et en effet, parce que par notre comportement, par notre regard, encore une fois, notre écoute, notre bienveillance, et bien là encore, en vivant la parole, nous pouvons influencer sur la qualité de réception de la parole, en donnant envie de suivre à l'autre, donnant envie à l'autre de suivre le message de l'Évangile. Et qui me dit que la terre ne va pas se transformer une fois que j'aurai semé? Je peux la voir pleine de cailloux, pleine de ronces, au début, semer et que cette terre se transforme et ensuite porte du fruit. Nous entendons souvent des témoignages lors des baptêmes de personnes dont les vies étaient arides, où les vies étaient pleines de cailloux, pleines de ronces. Et nous sommes toujours émus de cette transformation de la terre. La terre qui n'était pas apte à accueillir la semence, eh bien au fond, géographiquement, j'ai envie de dire, elle n'était pas très loin de la bonne terre. C'était de la terre de la même nature. Il y avait des ronces, il y avait des cailloux en plus. Mais la bonne terre, elle est là, pas très loin. Donc faisons confiance aussi à l'autre lorsque nous avons semé, même si on voit que ce n'est pas forcément de la bonne terre, pour que cette terre se transforme en bonne terre. Mais quoi que l'on fasse, ce sera toujours de la responsabilité de l'autre que d'accueillir ou non l'Évangile. Sa responsabilité, mais aussi sa liberté, que nous avons à respecter. Comme au fond le Seigneur le fait avec nous. Nous avons le choix, nous aussi, chrétiens, de lui dire oui ou lui dire non. Voilà. N'imposons pas aux autres, au fond, ce que le Seigneur ne nous impose pas. Alors, en conclusion, j'ai mis la télécommande quelque part. Voilà, quelques pensées justement pour cette rentrée. Prenons le risque de semer et de semer en abondance. Osons semer. Veillons aussi à la qualité de la graine que nous semons. Tout à l'heure, je vous disais que la meilleure résolution que l'on pourrait prendre, ou le meilleur engagement plus exactement, que nous pourrions prendre en ce début d'année, est de nous asseoir à côté de Jésus, quotidiennement. Là, on parle du bord de la mer, peut-être que nous avons la chance de l'avoir vu. Cet été, on peut bien se représenter ce que c'est. Alors prenons le temps quotidiennement de nous asseoir à côté de Jésus pour lui parler et l'écouter. Voilà, asseyons-nous à côté de Jésus et passons du temps avec lui, ou passons plus de temps avec lui. Labourons aussi la terre que nous sommes pour que la parole germe en nous. Tout à l'heure, j'ai dit que nous étions semeurs, mais aussi nous y sommes terre, et que parfois, la terre pleine de ronces, ce n'est pas forcément que les autres, ça peut être moi aussi. Donc labourons la terre que je suis justement pour accueillir la parole et pouvoir semer. Voilà, et je relis un verset que l'on a lu tout à l'heure. Celui qui a été ensemencé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et produit l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Alors cette année, même si on n'a pas de vœux de rentrée, mais en tout cas ce que je nous souhaite cette année est de porter du fruit et que ce fruit se transforme aussi en graine. Le fruit n'est qu'une étape au fond, qu'il se transforme en graine que nous pourrons également semer. Amen.